Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Mathilde Gay.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez peut-être, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Gilles Avard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire Monde Américain. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations entre Amérindiens et Européens en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, vous publiez Les Natchez, une histoire coloniale de la violence, un livre fascinant sur une histoire aujourd'hui méconnue. Le 28 novembre 1729, plus de 200 colons français sont tués par une tribu autochtone de la basse vallée du Mississippi. Ce sont les Natchez. Vous menez une enquête historique et ethnographique haletante pour comprendre les ressorts de cet événement majeur de l'histoire coloniale française en Amérique. Connu en France grâce aux œuvres de Chateaubriand, l'événement est injustement qualifié de révolte Natchez dans la postérité. En tout cas, c'est ce que vous cherchez à démontrer dans cet ouvrage. Alors pour commencer, faisons un point de vocabulaire sur ce qu'on appelle parfois encore les Indiens, les Amérindiens, les natifs américains ou encore les peuples autochtones. Quelle terminologie est la plus appropriée pour qualifier les premiers peuples d'Amérique ?
Alors, dans mes livres, je fais le choix d'utiliser de façon interchangeable indien, amérindien et autochtone. Je m'en explique dans une petite note terminologique au début du livre, parce que je sais que depuis quelques années, ces appellations posent problème dans certains contextes politiques ou nationaux. Et j'explique que selon qu'on s'exprime depuis la France, depuis le Canada ou depuis les États-Unis, les expressions sont diverses. Moi, je considère que le mot autochtone est pas assez précis quand on parle des autochtones américains, ou alors il faudrait préciser les autochtones américains, mais je l'utilise quand même. Donc, en combinaison avec indien, même si le terme est rejeté beaucoup au Canada, mais dans mon livre, comme vous l'avez dit, c'est une enquête aussi ethnographique. Et donc j'ai pu rencontrer des Natchez, des Cherokees, des Creeks. Et alors au maximum, j'utilise les ethnonymes, donc les noms des groupes. Mais quand il faut parler des autochtones de façon générique, j'utilise indien. Et le meilleur terme, je pense, c'est le terme amérindien, parce qu'il est un petit peu moins polémique. Alors sachant donc, que je disais, les Natchez que j'ai rencontrés, eux disent Indians ou Native Americans. Donc ça leur pose pas de problème. C'est surtout au Canada que ça pose des problèmes. Mais voilà, pour juste conclure, Amérindien, c'est pour moi le terme parfait parce qu'on sait précisément de qui on parle.
D'accord. Alors, pour étudier le massacre du 1729, vous êtes majoritairement appuyé sur des sources françaises. Comment vous êtes parvenu à dresser un tableau objectif des événements avec comme unique point de vue celui des colonisateurs ?
Alors c'est tout le défi de cette histoire qui est asymétrique, hein, parce que on ne dispose pas de sources venant directement des Natchez. En tout cas, les Natchez du XVIIIe siècle n'ont pas laissé d'écrits comme tous les Amérindiens. Et donc on doit essayer de reconstituer à la fois les événements et les sociétés autochtones à partir des sources des colonisateurs. Qui sont produites donc pour ce qui est des Natchez à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, donc ce que j'appelle dans le livre le corpus Natchez, et j'en donne un petit peu tous les détails. Ma technique repose sur l'utilisation combinée de l'histoire et de l'anthropologie, au sens où, alors, de deux façons. D'abord, en allant rencontrer les Amérindiens d'aujourd'hui, donc les Natchez, et en essayant d'utiliser leur tradition orale, même si, comme toute source écrite, toute source orale est également à contextualiser et critiquer. Et puis, en lisant également, parce que un peu dans le sillage, très modestement, de Lévi-Strauss, qui a fait des comparaisons en étudiant les mythes amérindiens de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska, j'essaie d'établir des parallèles avec d'autres sociétés amérindiennes. Dans la mesure où le corpus Natchez, même s'il est assez imposant, on a beaucoup de sources, il reste quand même lacunaire en regard de plein d'autres civilisations. Donc je fais des parallèles avec les Iroquois, par exemple des Grands Lacs, avec les Aztèques ou avec les Incas, où on retrouve des dispositifs culturels similaires et qui m'aident à mieux comprendre ou à poser des questions spécifiques concernant le cas Natchez. Et puis la lecture également des anthropologues, moi je suis historien, m'aide également à décrypter ou à mieux décrypter, selon moi, les sources écrites du XVIIIe siècle.
Alors, pour donner des éléments de contexte sur notre événement, où en est-on du processus de colonisation au début du XVIIIe siècle en Louisiane ?
Alors, effectivement, l'événement dont on parle, c'est 1729. Les premiers contacts entre les Français et les Natchez, ça remonte à 1682. C'est le voyage de Cavelier de La Salle, qui est un explorateur normand. Il faut bien comprendre que la colonisation, la Nouvelle-France, c'est-à-dire l'Amérique du Nord française, hein, ça commence au début du XVIIe siècle surtout, et c'est la vallée du Saint-Laurent. Et puis, il y a une expansion progressive qui s'effectue, en tout cas des circulations de missionnaires, de coureurs de bois, d'explorateurs, en direction des Grands Lacs et en direction de la vallée du Mississippi. Et dans ce cadre, Cavelier de La Salle donc descend le Mississippi en 1682 jusqu'au delta du Mississippi. C'est le moment où le terme de Louisiane apparaît pour désigner cette vaste vallée du Mississippi. Mais là, on est encore dans l'ère des explorations, si l'on veut, pour ce qui est de la Louisiane, et il faut attendre 1699, donc 17 ans après, pour qu'il y ait véritablement un début de colonisation dans la région, avec la fondation de Biloxi en 1699, de l'Amobile, Mobile aujourd'hui aux États-Unis en 1702, et il faut surtout attendre 1717 lorsque la colonie va être prise en charge par la compagnie d'Occident qui deviendra deux ans plus tard la compagnie des Indes, pour qu'il y ait un véritable effort de peuplement. Et c'est dans ce contexte donc il y a à peu près 1000 militaires qui débarquent en Louisiane, des engagés également, c'est-à-dire des travailleurs sous contrat, plus de 2000. Ce qu'on appelle des filles à la cassette, c'est-à-dire des filles dont on finance le voyage parce qu'on manquait de femmes dans la colonie, et également des gens qu'on déporte, des forçats, 1200 forçats, et 150 filles qu'on appelle avec des guillemets de mauvaise vie, dont l'une qui s'appelle Marie Baron joue un rôle important dans mon livre. Donc, et ce moment colonisateur, si l'on veut, dure à peu près 5 années. C'est aussi à ce moment-là qu'on fait venir dans la colonie de force, évidemment, des esclaves africains. Et c'est ce moment où à la fois le Mississippi devient l'épine dorsale de la colonisation, avec la fondation de la Nouvelle-Orléans en 1718, et où la colonie devient, un peu sur le modèle de ce qui se passe à Saint-Domingue, une économie de plantation esclavagiste, avec la culture du tabac ou de l'indigo ou du riz. Voilà, et c'est aussi dans ce contexte que le poste des Natchez, en 1720 à peu près, est fondé par les Français à 300 km environ de la Nouvelle-Orléans, au nord de la Nouvelle-Orléans.
Donc les Français s'installent dans ce qui est pour eux un nouveau monde, mais ce monde est pourtant bien connu puisqu'il est habité par divers peuples amérindiens. Qui sont-ils, ces peuples qui vivent en Louisiane au moment du massacre ?
Alors ces peuples sont nombreux et aussi assez divers, en tout cas sur le plan linguistique. D'ailleurs le Mississippi, qui veut dire dans la langue des Outaouais, qui sont un peuple des Grands Lacs, qui signifie la large rivière, dans le bas Mississippi, les autochtones parle plutôt de Balbancha, qui signifie l'endroit où il y a une grande variété de locuteurs. Donc il y a une grande diversité linguistique, avec des isolats linguistiques. Le Natchez est une langue isolée, par exemple. Mais si l'on veut simplifier un petit peu, et si on reprend la catégorisation des colons français, il y a ce qu'on appelle les petites nations et les grandes nations. Hein, les petites nations, c'est des petits groupes qui ont déjà été heurtés par les épidémies ou par des guerres, entre Amérindiens dans le contexte de la colonisation et par exemple les Chitimacha ou les Bayagula ou les Mugulacha, qui sont des petits groupes qui vont souvent se réfugier entre guillemets autour des postes français, la Nouvelle-Orléans ou la Mobile. Et puis il y a des peuples qui restent extrêmement puissants à ce moment-là. C'est le cas des Natchez, c'est le cas aussi un peu plus à l'est des Chacta ou Choctaw, des Chicacha ou Chicasso, et puis si on va encore un petit peu plus à l'est, en direction des Appalaches, il y a deux grands groupes dont je parle beaucoup dans mon livre, qui sont les Creeks et les Cherokees. Alors si on reprend la catégorisation là, des anthropologues américains du début du XXe siècle, qui ont divisé l'Amérique du Nord en aires culturelles, donc là on est dans le sud-est, un « southeast », comme disent les Américains, et ce sont des sociétés qui ont des caractéristiques particulières, comme par exemple l'importance du dualisme, c'est-à-dire les sociétés sont divisées souvent entre une moitié rouge associée à la guerre, une moitié blanche associée à la paix, des clans matrilinéaires, donc filiation par les femmes, des sociétés où les chefs peuvent avoir des pouvoirs assez importants, et souvent par héritage, et pas seulement par leur qualité personnelle, et puis des sociétés qui dérivent pour certaines de ce qu'on appelle la civilisation du Mississippi, c'est-à-dire une civilisation qui a été identifiée et analysée par les archéologues, qui s'est développée du 11e au 16e siècle après Jésus-Christ, et qui se caractérise par des tertres, des plateformes spectaculaires, monumentales, où, sur lesquelles ont été bâtis des temples, hein, ou des maisons de chefs. Donc ce sont souvent également autres caractéristiques des sociétés hiérarchisées, et les Natchez sont un peu les héritiers de cette civilisation du Mississippi, dont le fleuron est aujourd'hui près de la ville de Saint-Louis, Missouri, la cité de Cahokia, hein, qui se caractérisait par un peuplement important. Au XIIIe siècle, c'était à peu près 15 000 habitants, et par également des dizaines, même des centaines de tumuli. Donc ces tertres dont je parlais juste avant.
Alors vous en avez parlé, l'arrivée des Européens et des microbes qui les accompagnent a été dramatique pour les Amérindiens. Quel a été l'impact exactement sur les Natchez et combien sont-ils au moment qui nous intéresse, au moment du massacre ?
Alors effectivement, la population des Amérindiens a extrêmement baissé à cause du choc microbien, donc c'est pas un processus volontaire, hein, mais l'Amérique étant un continent isolé, c'est vrai que les autochtones meurent parfois comme des mouches à cause de la variole, de la grippe ou autre maladie. Pour les Natchez, on peut estimer que vers 1700, c'est-à-dire au moment où débutent véritablement les contacts entre les Français et les Natchez, ils sont 4000. Sachant que d'après des indices et d'après les relations de missionnaires ou autres qu'on peut lire à cette époque, on peut estimer qu'un demi-siècle plus tôt, ils étaient autour de 30 000. Au moment du massacre de 1729, l'estimation, c'est autour de 2500 à 3000 Natchez qui vivent dans une dizaine de villages, donc à 300 km au nord de la Nouvelle-Orléans, comme je le disais, et où donc un processus d'interaction et de voisinage est à l'œuvre entre eux et les Français.
Alors, pour comprendre les causes du massacre, vous vous appliquez à mettre au jour les représentations du monde qui structurent la société Natchez. Donc, comment s'organise-t-elle, cette société, et son fonctionnement est-il singulier par rapport aux autres sociétés de la vallée du Mississippi ?
Alors, effectivement, cette société a souvent été vue comme un apex sociologique qui n'aurait pas d'équivalent en Amérique du Nord, qui évoquerait plutôt les sociétés hiérarchisées de la Mésoamérique, comme les Aztèques, les Mayas ou les Tarasques, et qui est en fait héritière, comme je le disais précédemment, de la civilisation du Mississippi. En fait, les colons français, vers 1700, étaient habitués aux sociétés amérindiennes du Canada, beaucoup plus égalitaires, avec des chefs sans pouvoir. En gros, un chef amérindien, c'est un chef qui ne joue pas au chef et qui gouverne par l'exemple. Et donc, au Canada, il y avait cette formule coloniale condescendante qui consistait à décrire les sauvages, entre guillemets, c'est le terme qui était utilisé pour désigner les Amérindiens, qui n'était pas genre, toujours péjoratif dans les sources, mais il l'était parfois, par cette formule, donc sauvage sans foi, ni loi, ni roi. Mais avec les Natchez, au contraire, on décrit, les colons décrivent une culture extrêmement sophistiquée. Et c'est d'ailleurs un peu le paradoxe du massacre, parce que c'est un peuple qui fait l'admiration des Français, qui croit retrouver en eux certains aspects de leur propre culture. Et donc, à certains égards, ils se sentent proches d'eux, alors qu'en réalité, c'est ce que j'essaie de montrer, on est dans une situation d'altérité maximale. Donc, on peut évoquer trois aspects de cette société. D'abord, la question du pouvoir. Le grand chef se nomme le Grand Soleil, le Grand Feu Très Grand, exactement, Washil Likip, et il est considéré comme le frère cadet de l'astre solaire. Il vit en hauteur, dans une maison construite sur un tertre, et c'est-à-dire qu'il est proche de l'étage céleste, hein, comme Lévi-Strauss l'a montré. Selon les Amérindiens, ça peut varier, mais en gros, l'univers est étagé avec trois strates, le céleste, à l'extrême inverse le chthonien, et au milieu la surface terrestre à laquelle se mêle parfois une dimension aquatique. Voilà, le grand soleil est rattaché à l'étage céleste, et c'est aussi sur des tertres que sont construits des temples, en tout cas c'est comme ça que les appellent les Français, sont plutôt des ossuaires où reposent les os d'une partie des membres de cette société qu'on appelle les soleils, et qui sont aussi des lieux où brûle un feu sacré et qui doit être entretenu à chaque instant, et qui est le symbole de la vie, de la végétation, de l'agriculture. Donc la question qu'on peut se poser, c'est il y a une tradition savante qui va de Montesquieu à l'ethnologue David Graeber, qui consiste à dire que l'autorité de ce chef est absolue, voire despotique. Il agirait à sa guise, jusqu'à mettre à mort, selon ses caprices, les membres de son peuple. Et en réalité, moi, j'analyse ça un petit peu différemment, en m'inspirant aussi des travaux de l'anthropologue français Emmanuel Devaux, en disant que ce sont des projections ethnocentriques, c'est-à-dire que l'hypertrophie de la vie rituelle, dont je peux donner quelques exemples si vous voulez, serait la preuve du point de vue des Français d'une forme d'absolutisme. Et puis aussi des analogies un petit peu trop rapides, là je pense à Montesquieu, qui a nourri sa théorie du despotisme dans l'esprit des lois en prenant le cas Natchez. Il a lu une relation de jésuite sur les Natchez, il s'en est inspiré pour développer son analyse politique. Je pense que plutôt qu'un chef au pouvoir absolu ou qu'un despote, on a affaire à un reclus rituel. C'est bien un grand chef, mais il vit à part. Et d'ailleurs, lors du massacre de 1729, il s'est isolé dans un hangar, le hangar à tabac des Français, et il n'a pas participé au massacre. Et il y a toutes sortes de prescriptions rituelles qui font que c'est un être à part. Je vous donne juste deux exemples. Il ne doit pas toucher le sol, et donc il est porté, en tout cas dans certaines circonstances cérémonielles, par des porteurs sur une litière, pas au nom d'une déférence aveugle, mais parce que c'est un soleil et que c'est une figure circulaire, sans pattes, il ne peut pas marcher symboliquement, et surtout si le soleil touche le sol, il y a risque d'incendie, de conflagration. Mais de ce point de vue-là, le chef Natchez n'est pas isolé, si l'on pense aux cultures amérindiennes au sens large, hein, chez les Aztèques ou les Incas, on retrouve cette même logique de portage rituel et d'isolement aussi du chef. Autre exemple, les serviteurs, parce qu'il est entouré de domestiques, ne le regardent jamais dans les yeux, parce que le soleil éblouit, et ils le saluent en aboyant. Comme des chiens, hein, au sens strict du terme. Et en fait, ça indique, et ça c'est vrai pour le grand soleil, mais pour tous les soleils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas soleils, ceux qui ne sont pas des aristocrates, pour simplifier, doivent s'adresser au soleil en aboyant, parce que ça indique la hiérarchie à l'œuvre. Dans la conception des Amérindiens, la race canine est placée dans une position de cadet par rapport aux humains. Alors, si je passe à l'organisation sociale, donc je disais, ces sociétés du sud-est des États-Unis actuelles sont hiérarchisées. Les soleils donc forment une sorte de lignage royal qui bénéficie de privilèges, donc les aboiements dont je viens de parler, et puis le fait qu'ils soient enterrés avec des honneurs particuliers, je vais revenir un tout petit peu après. Donc il y a les soleils au sommet, et puis en dessous d'eux, il y a trois autres classes, les nobles, puis les considérés, et enfin les puants. Et si on reprend le vocabulaire anthropologique, on peut diviser ces quatre classes en deux moitiés, avec d'un côté la noblesse au sens large, donc y compris les soleils, et de l'autre les puants, qui sont un peu les roturiers, si l'on veut, de l'imaginaire français. D'ailleurs, ce dualisme est très marqué, puisque chaque moitié a sa langue particulière. Donc ce dualisme, c'est quelque chose de très courant dans l'Amérique autochtone, même s'il n'est pas toujours de nature cosmique ou hiérarchique, comme c'est le cas ici. Donc là, le haut, c'est la noblesse, c'est l'étage céleste, et le bas, ce sont les puants, qui sont associés à la terre, à la boue, au marécage, au bayou, d'où s'exhalent parfois des odeurs désagréables, d'où le terme de puant. Hein, donc on est en Louisiane, hein, on se rappelle. Voilà, et c'est important, j'insiste beaucoup sur cette question du dualisme parce que il constituait une réalité si prégnante dans l'univers mental des Amérindiens que je fais l'hypothèse dans mon livre qu'il a servi de grille de classement des Français qui sont venus en quelque sorte s'agréger à eux et qui étaient considérés par les Natchez comme une seconde moitié et de fait comme des parents en puissance qui deviennent potentiellement des Natchez. Et puis donc voilà, sur la société Natchez, donc il y a la question du chef, il y a la question de la hiérarchie, et puis ce qui est une singularité qui a beaucoup frappé les Français, il y a la question du rapport à la mort et ou plutôt des croyances eschatologiques. C'est-à-dire que à la mort d'un soleil, homme ou femme soleil, tout son entourage domestique, une partie de ses parents, des personnes âgées, des enfants également, pouvaient être, alors sauf dans le cas des enfants, eux ils n'avaient pas le choix, c'était des bébés, mais tous s'offraient à mourir en même temps que le soleil. Donc ce qui a frappé les Français, c'est le caractère solidaire et contagieux de la mort. Donc comment ça se passe? On donne un intoxicant à chaque personne qui accepte le sacrifice, mêlé à du tabac, et on lui met une cagoule de chevreuil sur la tête, et on tire un coup sec, et donc on l'étrangle. Tout cela dans un cycle funéraire que je détaille dans mon livre. Mais voilà, donc pourquoi? Alors les préhistoriens appellent ça des morts d'accompagnement plutôt qu'un sacrifice. Moi, dans mon livre, j'appelle ça sacrifice mortuaire. Pourquoi mort d'accompagnement? Parce que si ces personnes sont tuées, c'est parce qu'elles doivent aller accompagner le soleil décédé dans le pays des morts, où notamment les domestiques vont continuer à servir donc le ou la femme soleil donc dans ce pays des morts, dont il existe, cela étant, deux versions. Une version enviable, qui est une sorte de pays de cocagne avec une chasse abondante, et une version pas enviable du tout, qui est une zone marécageuse avec des crocodiles et des moustiques. Ce que j'essaye de faire également, c'est de dans mon interprétation du massacre, de faire un lien entre la question de la guerre, de la violence guerrière, et la question de la violence sacrificielle.
On va y revenir tout à fait, mais pour revenir sur ce sacrifice, cet accompagnement des soleils dans l'au-delà, est-ce que ce sacrifice repose-t-il sur un consensus communautaire ou est-ce que ça s'applique dans la contrainte?
Alors justement, c'est la difficulté d'interprétation, parce que toutes les sources indiquent qu'il n'y a pas de contrainte. Et que tous les individus, comme si il y avait une sorte d'économie de la prédestination, sans faire d'analogie trop facile avec le calvinisme, mais où certains individus étaient en quelque sorte destinés à mourir dans ce contexte funéraire. Et il y a un caractère solidaire et contagieux de la mort, et je pense par exemple à le moine d'Iberville, qui est le fondateur de la Louisiane en 1699, qui est un Canadien, il écrit « Je ne veux pas croire à cela », parce que ça le choque. Alors, dans d'autres contextes géographiques, ethnographiques d'Amérique du Sud, par exemple, je parle d'une autre population amérindienne, où là, c'était des esclaves qui devaient accompagner les chefs dans la mort, et là, ils étaient contraints. Mais dans le cas des Natchez, et c'est pour ça que je parlais d'altérité maximale, il y a apparemment une démarche volontaire, sauf dans le cas des bébés, évidemment.
Et avant le massacre, comment se passe la cohabitation entre Français et Natchez? Comment est-ce qu'ils se perçoivent l'un et l'autre? Et comment communiquent-ils?
Alors, les relations sont, pendant assez longtemps, des relations de voisinage, donc de bon voisinage, avec des alliances à la fois matrimoniales. Hein, on connaît par exemple quelques cas de mariage, comme cet individu, Laloire des Ursins, qui est un commis de la Compagnie des Indes, qui est marié à une Natchez et qui mourra le jour du massacre. Il y a des échanges, comme partout dans l'Amérique franco-amérindienne, qui sont liés au commerce des peaux de chevreuil, par exemple, où les Français achètent des poteries aux femmes natchez. Les Français font appel aux guérisseurs natchez lorsqu'ils ont des soucis de santé. Et dans l'autre sens, les natchez profitent des produits métalliques, textiles, des armes à feu des Français. Donc, pour ce qui est de la langue, il y a quelques Français qui apprennent la langue natchez, mais surtout, dans toute la colonie louisianaise, il y a un jargon qu'on appelle le jargon mobilien, donc fait à partir de plusieurs langues, et qui servait de lingua franca dans la région. Et par exemple, le gouverneur Bienville, qui a gouverné la Louisiane, notamment au tout début de la colonisation, et puis qui était le petit frère de le moine d'Iberville, et qui ensuite, dans les années 1730, reviendra en 1733 à gouverner la Louisiane, lui parlait le jargon mobilien, donc il s'exprimait directement avec les chefs autochtones sans avoir besoin d'interprète. Sinon, donc, il y avait des truchements, des interprètes qui pouvaient permettre la communication.
Et est-ce qu'il y avait aussi des conflits dans ces relations de voisinage?
Alors, effectivement, ce qui se passe en 1729 est totalement inattendu, mais il y avait déjà eu des situations de tension et même de guerre. La première, c'est en 1716, quand un fort français, justement, va être installé après cette crise. Il y a quatre coureurs de bois ou voyageurs qui sont assassinés par des Natchez. Et Bienville, qui dirige la colonie à ce moment, va essayer de mettre en place une expédition punitive qui ne va pas déboucher sur une guerre, mais il va s'appuyer sur certains chefs Natchez, dont le frère du Grand Soleil, qui s'appelait le Serpent Piqué, parce qu'il avait un serpent tatoué sur le corps, pour obtenir la tête de quelques chefs Natchez. Donc il va profiter d'une sorte de guerre civile entre les Natchez pour obtenir gain de cause. Et puis surtout, en 1722-1723, il y a des tensions très fortes, mais qui concernent pas les 10 villages, seulement 2 ou 3 des villages. Et donc jamais le village du grand chef, du Grand Soleil, n'a participé à ces exactions des Natchez, qui répondaient certainement à des brimades ou à des malentendus liés par exemple au troc des peaux de chevreuil. Donc le Grand Soleil et le Serpent Piqué se sont toujours placés plutôt du côté des Français.
Alors venons-en au massacre à présent. Donc le 28 novembre 1729 à 8h, 600 Natchez se préparent à un assaut qui fera plus de 200 morts parmi les colons français. Comment se déroule l'attaque et est-ce que les Natchez tuent indistinctement les personnes de la colonie?
Alors, donc effectivement, 28 novembre 1729, donc c'est le début de l'hiver et c'est aussi la saison de la chasse pour les Amérindiens. Et donc ce matin-là, ils donnent l'impression de partir à la chasse. il se dirige vers les différentes habitations des Français, notamment le fort qui s'appelait le fort Rosalie, où commandait un basque qui s'appelait De Chepard. Il se rend également dans les deux grandes concessions de tabac qui sont situées. Donc, le territoire Natchez est 20 km sur 20 km, donc c'est assez vaste. Et il se dirige vers le débarcadère également sur le Mississippi. Et avec divers présents, des cadeaux, ils ont du maïs, des volailles, de l'huile d'ours, des peaux de chevreuil, qu'ils comptent troquer aux Français pour obtenir en échange de la poudre, des balles, des fusils. Donc tout paraît normal, c'est la saison de la chasse. Une trentaine de Natchez arrivent devant le fort Rosalie en chantant la chanson du calumet. Le calumet, c'est un objet sacré qui est constitué d'un tuyau et d'un fourneau, donc qui est à la fois un bâton cérémoniel et une pipe, et qui est surtout emblématique de l'alliance entre les Français et les Amérindiens dans la vallée du Mississippi. Et donc, le commandant De Chepard reçoit la délégation en toute confiance. Un chroniqueur le décrit même en robe de chambre, ce qui est peut-être une petite ornementation littéraire. Et puis, soudain, un coup de feu retentit, et c'est le signal de l'attaque. Le grand chef, comme je le disais précédemment, s'isole et la tuerie commence, qui va durer une heure ou deux. De Chepard, le commandant, est le premier à être tué. Et puis la mort se répand de façon contagieuse, puisque plus de 200 colons sont tués donc aux quatre coins du poste. Avec, alors les colons sont scalpés ou décapités. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites mises en scène rituelles macabres, comme le fait de ranger les têtes sur le sol en rond, de mettre également les corps en rond en leur faisant se tenir la main. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un massacre aveugle, au sens où ce sont les hommes qui sont tués. Je parlais de la loi des Ursins tout à l'heure. Il y a aussi un père jésuite qui s'appelait Dupoisson qui était là. Il y avait aussi un certain Jean Roussin. Bon, je donne des exemples à tout hasard que personne ne connaît. Mais Jean Roussin, c'était le mari de Marie Baron, cette jeune femme déportée que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est important parce que Marie Baron se remariera l'année suivante à la Nouvelle-Orléans avec un autre colon qui s'appelle Dumont de Montigny. Et Dumont de Montigny est l'un des deux grands chroniqueurs des guerres franco-natchaises, et il a obtenu beaucoup d'informations de sa femme Marie Baron, parce qu'elle a survécu comme la plupart des femmes, même si dans les jours et semaines qui vont suivre, beaucoup de femmes vont également être tuées. Il y a deux hommes également qui vont être épargnés, un charretier et un tailleur. Les esclaves africains également ne sont pas tués pour la plupart d'entre eux, certains même se mettant du côté des Natchez, mais une minorité d'entre eux, les autres étant capturés.
Donc si la tuerie de 1729 n'est pas l'expression d'une résistance contre des colonisateurs, qu'est-ce qui la motive ?
Alors j'ai essayé, si vous voulez, de faire un pas de côté par rapport au paradigme de la résistance. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas des éléments de résistance, ou en tout cas de réaction à de mauvais comportements de la part des colons, en particulier du commandant De Chepard. Mais si vous voulez, j'ai essayé d'avoir une approche. Mais le mot résistance est devenu un mot un peu magique qui interdit, d'après moi, de réfléchir à la dimension culturelle de la violence. Donc j'ai essayé à la fois de faire une critique des sources en historien et d'avoir une approche ethnologique pour rentrer dans l'épaisseur culturelle des Amérindiens, ce qui est, d'après moi, la meilleure façon de rendre hommage à ces peuples, c'est de s'intéresser au fonctionnement de leur culture. Donc, en historien d'abord, parce que, si vous voulez, pour reconstituer les univers mentaux des Amérindiens, il faut, comme on l'évoquait précédemment, commencer par comprendre les chroniqueurs du XVIIIe siècle. Or, la tuerie de 1729 a donné lieu à des élaborations narratives, avec d'un côté, si on se place du point de vue de l'histoire politique Le traumatisme est si vif en 1729 que les administrateurs français, le gouverneur qui s'appelle De Perrier à l'époque en Louisiane, qui a succédé à Bienville, on cherche des explications fortes. Donc par exemple, Perrier va tout de suite imaginer que c'est une vaste conspiration de plusieurs nations amérindiennes, ce que d'autres historiens ont montré avant moi, que comme Arnaud Balvet ou Gordon Serre, que en fait il n'y avait pas de vaste conspiration. Ensuite, on raconte que De Chepard, qui est dépeint comme un individu incompétent, cupide, violent, a voulu transformer les Natchez en esclaves, il a voulu usurper leurs terres. Tout cela est assez discutable. Il y a probablement eu des brimades, mais De Chepard n'a tué ou fait tuer personne. Et il a peut-être voulu justement trop jouer au chef dans un contexte amérindien où ça ne passait pas, mais précisément peut-être parce qu'il a mal interprété la chefferie Natchez en voulant peut-être revendiquer des pouvoirs ou des prérogatives de type supérieur qu'il croyait voir dans la personne du Grand Soleil. Donc ce que j'essaie de montrer également là, après l'histoire politique, si on se place du point de vue de l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités, c'est que les chroniqueurs, dont Dumont de Montigny, que j'évoquais, ou l'autre important, c'est Lepage du Prat, les deux ayant vécu parmi les Natchez pendant plusieurs années et étant des lettrés, ont plusieurs modèles livresques, si vous voulez, qu'ils peuvent mobiliser dans leur rendu de la violence des Natchez. Et ces modèles livresques peuvent brouiller les frontières entre histoire et littérature. Donc il y a plusieurs matrices comme ça que j'essaie d'analyser dans mon livre. Je vous en donne deux simplement. La plus importante, c'est la conjuration. Le récit du massacre s'inscrit donc dans les deux grands registres de la conjuration à l'âge moderne. Il y a beaucoup de récits de conjuration, surtout au XVIIe siècle, mais qui étaient lus encore énormément au XVIIIe siècle, avec d'un côté la lutte contre un pouvoir jugé tyrannique, par exemple la conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque, ou de l'autre la révolte contre la prépondérance d'une puissance étrangère. Et là, il y a un texte qui est beaucoup plus connu, Conjuration des Espagnols contre la République de Venise, en l'année 1618, qui était considéré d'ailleurs par Voltaire comme un chef-d'œuvre historique, alors que c'est un récit en partie fictionnel. Donc voilà, autre matrice, Lepage du Prat, l'autre chroniqueur avec Dumont de Montigny, à un moment met en scène un personnage Natchez, une femme dont je pense qu'elle est imaginée. Parce que, en tout cas, Lepage du Prat l'investit de sa propre raison. Et là, on est en pleine dérive fictionnelle parce qu'il lui fait tenir des discours qu'on croit sortis d'une tragédie de Racine. Donc, voilà, j'ai tout un chapitre pour essayer d'analyser ça. Mais cette femme s'appelle la bras piqué, donc le bras tatoué. Elle a des propos qui la font ressembler à l'Agrippine de Racine dans Britannicus. Donc ça, c'est la critique historienne. Et puis ensuite, il y a donc l'idée de replacer, de recontextualiser l'événement en le rapportant au cadre culturel des Amérindiens. Et en cela, je m'inspire de l'approche, par exemple, de Marshall Salins dans son analyse de la mort du capitaine Cook à Hawaï en 1779. En fait, la thèse que j'essaie de développer, c'est que l'alliance franco-natchez relevait en partie au moins d'un dispositif local, autochtone, d'intégration dualiste qui s'est enrayé. Et un argument pour étayer cette idée, en réalité, si on observe, grâce aux sources coloniales françaises, l'histoire de cette région, même si on n'a pas beaucoup d'informations, avant l'arrivée des Français ou dans le contexte de l'arrivée des Français, en fait, ces agrégations ethniques, là, ce sont les Français et les Natchez, mais entre Amérindiens, par exemple, donc sont très fréquentes. Hein. Par exemple, vers 1700, il y a les Bayagula qui se sont réunis au Mugulacha, qui composaient une communauté de 600 individus, mais deux nations, formait un système dualiste en formation. Chaque groupe avait son temple, chaque groupe avait son chef, mais il y avait des mariages mixtes, donc voilà, un système dualiste en formation. Et je fais un petit pas de côté du côté du Brésil et des Nambiguara de Lévi-Strauss, qui a lui aussi décrit des sociétés comme ça, disposant de moitié exogamique. Et je reprends une de ses phrases qui m'a beaucoup éclairé. Il disait quelque chose comme voilà, il fallait traduire en termes de parenté pour deux groupes qui s'agrégeaient un phénomène de contiguïté spatiale. Et que se passe-t-il en 1700 pour les Mugulasha et les Bayagula? Eh bien, les seconds sont massacrés par les premiers, donc la cohabitation accouche d'une tuerie massive. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les Français arrivent dans une région où il y a une histoire amérindienne qui est faite déjà de cohabitation avortée, et que ça permet peut-être de lire en partie, de comprendre mieux en tout cas l'événement de 1729.
Et comment les gouverneurs de la colonie, donc de Paris puis Bienville, répondent au massacre?
Alors c'est la stupéfaction, c'est un véritable traumatisme dans la colonie. Perrier essaye rapidement d'obtenir des troupes, donc il fait appareiller un navire en direction du royaume. Et son frère qui s'appelait Salvert arrivera dans la colonie seulement quelques mois plus tard, avec 500 hommes de troupes. Mais là, on est donc décembre 1729, donc Perrier ne peut pas attendre l'arrivée de troupes venues de France pour réagir. Et comme partout dans l'Amérique du Nord franco-amérindienne, les Français ne peuvent pas organiser d'expéditions militaires, que ce soit contre les Britanniques ou contre d'autres groupes amérindiens, sans l'aide précisément d'alliés militaires amérindiens. Et c'est pourquoi il dépêche un officier chez les Chactas, les Choctaux aujourd'hui, qui sont un groupe extrêmement puissant et sans lequel la Louisiane disparaîtrait sans doute du jour au lendemain si les Chactas venaient à s'allier aux Natchez. Mais précisément, ce sont deux groupes qui sont en guerre, et donc les Chactas vont aider les Français lors d'une première expédition qui a lieu en janvier-février 1730. Et qui va permettre, au bout d'un siège qui va durer plus de 2 semaines, de délivrer une partie des captifs. Et puis l'année suivante, avec l'aide des troupes venues du royaume, en janvier 1731, donc un an après, il y aura un autre siège dans un autre endroit où, parce qu'en fait les Natchez, lors de la première expédition, vont réussir à s'enfuir malgré tout. Et en revanche, en 1731, ils seront capturés. 500 d'entre eux sont capturés. Plusieurs sont déportés, pardon, comme esclaves à Saint-Domingue, en Haïti aujourd'hui. Et d'autres parviennent à se réfugier parmi un groupe voisin avec qui ils étaient alliés, les Chicasso aujourd'hui. C'est le nord-est de l'état actuel du Mississippi. Et un peu plus tard, dans les années 1730 et 40, ils se réfugieront parmi les Creek et les Cherokee, parce que le gouverneur Bienville, qui remplace Perrier à partir de 1733, va mettre un point d'honneur à mener une guerre d'éradication pour obtenir les têtes des derniers Natchez, donc il mène une guerre à outrance. De quasi-extermination qui conduira donc à la quasi-disparition du peuple Natchez, mais pas complète, puisque l'une des idées reçues, en plus de discuter donc l'idée de la révolte, je discute l'idée de la disparition supposée de ce peuple.
Eh bien, justement, vous réfutez dans le livre l'usage du terme de génocide pour qualifier les exactions commises à l'encontre des peuples amérindiens. Pourquoi et que pensez-vous de l'utilisation du terme d'ethnocide?
Alors effectivement, je pense que c'est très difficile de parler d'utiliser le mot génocide pour qualifier la conquête de l'Amérique du Nord. Il y a des situations, si on regarde de près l'histoire de la Californie par exemple, dans le contexte de la ruée vers l'or, donc autour de 1848-1850, où on peut parler de génocide, mais c'est pas un terme qui est adapté pour comprendre l'histoire de la colonisation. Il faudrait sans doute plus de temps pour en parler. Moi, c'est vrai que je suis plus adepte du terme ethnocide, au sens où il y a eu, selon les périodes et quand les colonisateurs ont eu les moyens, parce que disons qu'il y a une idée reçue également qui consiste à dire que dès que les colonisateurs posent le pied en Amérique du Nord, ça y est, les Indiens sont des victimes. Mais en réalité, jusqu'au milieu du 19e siècle, les deux tiers de l'Amérique du Nord étaient encore sous le contrôle des Amérindiens. Donc il faut essayer de faire l'histoire de ces peuples en tenant compte de la brutalité coloniale, mais aussi en tenant compte du fait qu'ils sont restés souverains pendant très longtemps et en position de force. C'est ce que montre d'ailleurs le massacre des Natchez. Les Natchez n'étaient pas du tout soumis aux Français en 1729. Et si vous voulez, la colonisation et la conquête, ça se fait très progressivement du 17e jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais il y a des moments, et particulièrement la deuxième moitié du 19e siècle pour ce qui est des États-Unis, où on peut parler d'ethnocide au sens où on tente d'assimiler brutalement les Amérindiens en les empêchant de pratiquer leur culture.
Et malgré ces exactions, il reste encore aujourd'hui des Natchez. Vous en avez rencontré un, Outkefield, qui se revendique comme étant l'actuel grand soleil. Et avec lui, vous écrivez dans le livre que vous avez participé à l'élaboration d'une cérémonie de réconciliation avec la France qui était organisée pour mars dernier. Comment s'est déroulée la cérémonie? Quel débouché peut-on espérer de cet événement?
Alors, c'est vrai que je me suis rendu en Oklahoma il y a 2 ans pour aller à la rencontre des Natchez. Donc j'avais d'abord pris contact avec ce chef, Outkefield, qui vit dans l'est de l'Oklahoma. Il faut savoir que les Natchez aujourd'hui ne sont pas reconnus comme un groupe, une tribu par le gouvernement fédéral. Et depuis précisément le milieu du 18e siècle, ils vivent parmi les Cherokees ou les Creeks. Ils ont longtemps réussi à maintenir leur langue jusqu'au début du 20e siècle. Ils ont aussi maintenu certains rituels, mais qui se sont mêlés en quelque sorte à ceux des Creeks et des Cherokees. Et par exemple, lorsque John Swanton, le grand anthropologue américain spécialiste du sud-est des États-Unis, au début du XXe siècle, s'est rendu en Oklahoma pour faire du terrain avec les Natchez, il ne restait que 5 locuteurs de la langue Natchez. Les Natchez, donc aujourd'hui, sont dirigés par ce chef, Outkefield, qui essaye de faire en sorte que la nation Natchez, Natchez Nation, comme il le dit, soit reconnue par le gouvernement fédéral, mais il a beaucoup de difficultés à obtenir cette reconnaissance, d'autant plus que les Creeks et les Cherokees, parmi lesquels vivent les Natchez, en tout cas ceux qui se définissent encore comme tels et qui, je pense, se comptent par quelques centaines, donc les Creeks et les Cherokees sont, les gouvernements des Creeks et des Cherokees sont opposés à cette reconnaissance. Et c'est vrai que dans le dialogue que j'ai pu avoir avec ce chef, qui m'a permis de rencontrer d'autres Amérindiens, d'autres Natchez, l'idée a germé d'une cérémonie de réconciliation qui aurait lieu à Natchez, donc qui est aujourd'hui une petite ville de l'État du Mississippi, où a lieu tous les mois de mars un powwow, donc qui réunit pour des concours de danse, des jeux rituels, plusieurs tribus amérindiennes, dont les Natchez. Et j'ai pris contact avec l'ambassade de France aux États-Unis, et en particulier avec le consulat d'Atlanta, dont dépend l'État du Mississippi, pour que soit organisée cette cérémonie, en liaison également avec le maire de la ville de Natchez. Malheureusement, ce qui était prévu, qui devait avoir lieu donc fin mars 2024, ça a été annulé, mais j'ai bon espoir que ce soit partie remise, et pourquoi pas organiser cette cérémonie en 2029, qui sera donc le tricentenaire de cet événement de 1729.
Merci beaucoup, Gilles Havard, pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre « Léna Tchez, une histoire coloniale de la violence » publié aux éditions Talendier. Chers auditeurs, merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur le site de Storia Voce dans la rubrique « Soutenez-nous » pour que nous puissions continuer à produire ce genre de programme qui donne la parole aux chercheurs et chercheuses. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.